Bonjour messieurs, dames, c'est à nous, c'est Sport Epic, on est toujours dimanche matin, c'est toujours le retour radio, c'est toujours le confinement, et c'est toujours avec autant de bonheur qu'on vous retrouve pour votre dimanche sportif. Messieurs, mes consultants sont de retour, ils étaient en vacances, ces bandes de vandales, à part mon frère qui était avec moi, évidemment, il y a 15 jours, vous aviez apprécié son doux timbre de voix. J'ai retrouvé mon Gilbo, qui est là, salut Gilbo.
Salut les gars.
Et évidemment, Lionel Véran, qui nous fera son petit point santé également.
Bonjour, bonjour à tous.
Et donc, mon Fred, Fredo La Science, qui m'accompagne, c'est devenu, du coup, Fred, je te nomme très clairement le mec le plus assidu du groupe. Bravo à toi.
Ah, j'en suis très fier. Bonjour à tous.
Tu peux, c'est énorme. Lionel, on va profiter de ta présence. Il y a 15 jours, malheureusement, tu n'avais pas pu nous faire le petit point. Alors, merci, monsieur Lionel Véran. Qu'en est-il? Où en sommes-nous? Où en sont nos sportifs mayennais dans le Covid?
Non, bah, écoute, j'ai profité moi aussi des vacances pour aller voir si le Covid était meilleur ailleurs. Dans le sud, le soleil permet quand même de l'oublier un petit peu. Ouais, après, on voit bien qu'en ce moment, les jus bouleaux de mars sont là, il faut faire très attention au rhume plus qu'au Covid peut-être, et puis voilà, les vaccins arrivent, les médecins, allez les voir parce qu'ils sont sympas, ils peuvent vous faire passer devant la file, voilà, et puis on n'oublie pas les masques, ça reste la base.
Fort bien, et as-tu eu la chance d'entrer dans la bulle sanitaire du 15 de France?
Ah là là, je le regrette parce que là il y a de l'animation, il y a de l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut, c'est un drame, c'est génial.
C'est un drame humain, très bien. Bon, on va quand même leur souhaiter le meilleur contre les British, évidemment, nos meilleurs ennemis. On va démarrer, bien sûr, messieurs, dames, sur de la Ligue des Champions, hein, une grosse page Ligue des Champions. On s'arrêtera sur Laval, le devenir de Laval dans son championnat de national actuellement. Nous irons aussi faire un tour à Châteauroux, où la planche à billets est en train de fonctionner à plein. On ne sait pas trop pour qui, pourquoi, mais voilà, Châteauroux qui est racheté, c'est très bizarre. Vous aurez aussi un petit peu de ski, un petit débat sur le ski, si ça vous intéresse, bien sûr. Et enfin, sur le courrier de la Mayenne qui parle de l'avenir des clubs. Alors là, on parle de tout club, évidemment, comment ça va se passer pour l'avenir de tous ces clubs amateurs, puisque les professionnels, évidemment, arriveront toujours à s'en sortir. On démarre avec cette petite Ligue des Champions, messieurs, si vous voulez bien. Et tout de suite, un petit quiz pour vous mettre en bain. Vous allez me donner, alors là, si vous êtes très fort, vous me les donnez dans l'ordre, les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. On va y aller en dégressif, c'est-à-dire on part 2020 et vous descendez. Dès qu'il y en a un qui plante, il s'en va. C'est celui qui va démarrer, c'est Lionel. Ensuite, ce sera Fred et Gilbo. Lionel, ouais. En 2020, qui a gagné la Ligue des Champions face au PSG? Là, tu me ferais quand même beaucoup de mal. Là. C'est allemand, c'est un gros club allemand.
Dortmund.
Ah, il est bon comme un âne.
Le Bayern, bien sûr. Bayern, bien sûr.
Bon, bien on va faire un ping-pong, je pense, du coup, entre Fred et Gilbo.
Ouais, ouais.
Bayern, donc 2019, Gilbo. Non, Fred, excuse-moi, Fred.
Liverpool.
Liverpool, 2018, Gilbo.
Real Madrid.
17, Fred.
Real Madrid.
16, Gilbo.
Trois fois, mais est-ce qu'on va suivre? Real Madrid.
Real Madrid, oui, je valide. 15, Fred.
En 2015. Ouais. J'affiche. Bayern de Munich.
Ah, et c'est parti. Peut-être Nico, gros connaisseur de foot, qui nous rejoint. Salut Nico. Nico, 2015, le vainqueur de la Ligue des Champions. Ah, on ne l'entend pas, il n'a pas mis son micro. C'est pas grave. En 2015, c'était Barcelone, messieurs.
Tout ah, bah je pouvais. Bah, je l'avais.
Non, tu ne l'avais pas.
Toi, tu as planté avant. Et c'est un truc de fou. De 2000 à 2020, vous verriez le nombre de fois où c'est Barça-Real. C'est assez impressionnant. Entre Barça-Real et Bayern, c'est quasiment la moitié des Ligue d'Esch. Donc, quand on dit que le foot, c'est un peu un sport de roulette russe, ce que je dis moi assez souvent, Bah, certainement à tort, du coup, parce qu'on voit finalement, c'est quand même assez souvent les mêmes vainqueurs. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir quelques petites certitudes. On démarre tout de suite. J'ai vu ce match. J'ai vu, vous l'avez peut-être regardé également, c'était mardi soir, du coup. Vous l'avez peut-être regardé. Moi, je n'ai pas forcément tremblé. Et ensuite, premier commentaire que j'ai entendu sur les fameux chroniqueurs du sport post-match, ça a été « le PSG ira pas loin en jouant comme ça, ils se sont fait bouffer, ainsi de suite ». Je vous dis, mais c'est une méconnaissance totale du football quand on dit, quand on dit quelque chose comme ça, ou vous n'avez pas regardé le match, ou vous le pensez sincèrement. Parce qu'évidemment, quand tu gagnes 4-1 à l'extérieur, tu n'as aucune raison de paniquer, tu n'as aucune raison d'aller partir vers l'avant tout feu tout flamme. Et tu gères le match comme tu l'as géré, pas de manière extraordinaire, mais en tout cas, ça a été fait proprement. Et moi, je peux vous dire, même si je ne suis pas parisien du tout, à aucun moment je tremble. À aucun moment je tremble, Fred.
Ouais, mais c'est normal parce que si tu as regardé mardi soir, c'était mercredi, donc tu n'as pas dû voir le même match.
Parce que. Ouais, avoue que j'étais pas loin quand même.
Parce que concrètement, ils peuvent être à 3-0 à la mi-temps et il n'y aurait rien à dire, quoi. Donc, ils ont de la chance, c'est que nos attaquants français, ils ont les pieds carrés, merci Dembélé. Mais autrement, concrètement, ils sont passés quand même à deux doigts de la correctionnelle parce que je pense que là, ça aurait été assez dramatique. Donc, heureusement, ils ont acheté un gardien, ça, c'est une bonne chose. Ils ont un super gardien. Et puis, derrière, en deuxième mi-temps, ça s'est géré effectivement. Bah, alors, première mi-temps, c'était assez catastrophique. D'ailleurs, je suis assez stupéfait, je vais commencer par balancer là-dessus. Je comprends pas que Pochettino il n'ait pas sorti Mbappé au bout d'un quart d'heure, parce que moi un mec qui se replace pas une seule fois, qui laisse arrière gauche tout seul face à deux joueurs, bon une fois tu comprends, deux fois tu commences à lui dire bah écoute mon garçon, ce serait peut-être bien de te replacer. Mais alors là, au bout d'un moment c'était tellement indécent que t'as du mal à comprendre comment des techniciens de haut niveau comme ça. Bah, ils n'arrivent pas à rectifier le tir, à rééquilibrer l'équipe en deux temps trois mouvements. Quoi.
Et tu connais très bien la réponse à ta question, Gilbert.
Ouais. Ouais, je suis d'accord avec Fred. Non, mais clairement, ils étaient faibles. Après, je suis pas d'accord sur le fait de, on retient que ça. Alors qu'en fait, faut retenir la qualification. Effectivement, ils ont.
Non, faut retenir l'ensemble, Gilbert.
Ouais, c'est l'ensemble. Pas,
c'est vrai. Que le match.
Ils ont été effectivement fébriles. Bon. Ils ont été fébriles.
Oui, mais c'est juste humain. Ça se voit dans tous les matchs de foot. Ça se voit, donc, Fred, toi, t'es tennis. Ça se voit dans quasiment tous les matchs de tennis. Bah, tu sens que les mecs, ça commence à gamberger. Forcément, tu mènes. Forcément, t'as cette fameuse remontada où on n'arrête pas de te bassiner depuis 3 ans. Forcément, ça trotte dans les têtes. Bon, bah, tu vas jouer derrière. Tu vas faire un rideau. Et le rideau, ils l'ont fait. Et on s'est plutôt emmerdé. Et heureusement que Barcelone jouait très correctement. Parce que niveau parisien, c'est vrai qu'on s'est plutôt emmerdé. Mais c'est pas grave. C'est aussi des réalités du foot. Les mecs ont géré de manière professionnels, voilà, ils ont acquis le résultat qu'ils voulaient. Lionel. Non,
mais, pardon, ils ont mal géré.
Je pense qu'effectivement, la vérité doit être un peu entre les deux, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'arriver avec un 4-1, c'est pas du tout pareil dans la tête et dans les jambes et dans la stratégie. Et donc, oui, on essaye de tenir le score, mais là où je suis d'accord aussi, c'est que la première mi-temps a été catastrophique. Et que les reprises de balles, techniquement, on ne leur connaissait plus. On aurait dû une petite équipe de division, là, de très, très inférieure. Et il y avait de quoi trembler. Fred parle de 3-0. Je sais pas. Je ne crois pas qu'en tir cadré, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions. Mais par contre, en termes de possession de balles et de pression sur les buts, c'était incroyable. Et il y avait de quoi trembler de ce côté-là, ouais.
Oui, mais possession, Lionel, tu sais très bien. Enfin, tu regardes les matchs de foot comme moi, tu sais très bien. Bon, on savait qu'on allait vers ce scénario. On savait qu'on n'allait pas revivre ce match extraordinaire du match aller au Camp Nou. C'était évident, ça. Donc, moi, ça m'offusque pas. Nico Flané, qu'on vient de reperdre. Mais Nico, notre grand spécialiste.
Je suis là.
Notre grand spécialiste PSG. Toi, tu dois avoir ton avis là-dessus. Est-ce que toi, devant ton poste, tu as eu des jetons ? Est-ce que tu t'es ennuyé ? Est-ce que tu as honte pour ton équipe ? Ou est-ce que tu exultes seulement pour cette qualification qui est, pour moi, méritée à l'arrivée ?
Alors, je suis content. On a eu chaud, mais je suis obligé, à mon grand regret, d'avouer que les gars, ils ont eu peur, quoi. Ils sont fait tuer. Quand tu vois que, en fait, les milieux de terrain, ils avaient un ballon dans les pieds, ça leur brûlait les pieds. Ou alors qu'ils n'osaient pas faire d'appel pour demander le ballon parce qu'ils avaient peur de la perdre. Et on s'est fait manger, asphyxier. Et puis comme oui, c'est sûr qu'on s'en sort bien. Heureusement que Messi loupe ce penalty, parce que pour moi, sinon le scénario remontada, il se faisait.
C'était ah ouais.
Obligé. Mais par contre, mais
c'est à cause de ça, Nico, que les mecs ont la trouille sur le terrain. C'est à cause de ce que tu viens de dire là. C'est à cause de tout ce qu'on dit, nous, de tout ce qu'ils entendent à droite, à gauche. Et c'est pour ça que Mbappé, à son époque où il était très intelligent à la fin du match contre Manchester, nous, on n'a pas peur hein, contre Manchester. C'est vous qui avez peur pour nous. Et c'est ça le souci. C'est on met une telle ambiance, on met une telle pression autour de ce PSG que les mecs, bah, forcément, ils font ce petit match et ça reste très humain, Gilbo.
Ouais, et il est à noter quand même que cette année, je pense que même les journalistes ont évité de parler de remontada pour ne pas foutre le doute.
Oui,
je
pense qu'on a très
peu parlé. Ouais. Tu vois, ils ont fait exprès parce qu'ils ont conscience d'avoir un petit peu immiscé le doute aussi dans les têtes, et ainsi de suite. Ça joue, quoi. Et puis, c'est dernière chose, je voudrais quand même répondre à Fred concernant Dembélé, qui a eu énormément d'occasions, qui a raté des occasions, mais il a cette capacité exceptionnelle à se créer des occasions.
Exceptionnel.
Voilà, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Et je ne dis pas ça parce qu'il a été formé à Rennes, attention.
Non, bien sûr que non. Mais il est extraordinaire, je trouve fabuleux, moi. Fred.
Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est un joueur que j'adore. Hein. Mais le Paris a eu de la chance mercredi qu'effectivement, il a beaucoup de déchets dans le but. Mais autrement, c'est un super joueur, effectivement. Enfin, au moins, il y a du spectacle avec lui. Il y a des actions, il fait des choses. Et puis bon, c'est un des rares joueurs qui arrive à enrhumer Marquinhos sans problème. Donc tu vois que le gars, il a quand même, il a de sacrées qualités. Après, heureusement, il n'était pas inspiré, il n'était pas en réussite, ça a profité à Paris.
Mais après, sur l'histoire de la remontada, ça fait quand même du bien de voir des joueurs, tu vois, comme donc Dembélé par rapport à un Icardi. Moi, c'est numéro 9 qui touche point key des matchs là et qui. À la Trezeguet à l'époque, là, t'en touches un par match, tu marques parce que t'es un bon buteur et le reste, t'en as rien à cirer. Ben, tu vois, moi, alors qu'un Dembélé, alors il va rater plein de trucs, hein, le mec, il est parfois brouillon, mais il est tellement fabuleux à voir quand il prend sa balle et qu'il part bien. Fred et Gilbo, ensuite.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Benoît, mais c'est pas les mêmes postes à la base. Dembélé, c'est pas un avançant.
On est d'accord.
Et puis, si tu veux, Icardi, on pourrait le voir un peu plus s'il avait son copain qui déborde sur le côté, qui de temps en temps lui mettait une balle, quoi. parce qu'ils ont un sacré bouffeur de feuilles aussi à Paris, quoi. Quand Mbappé, il prend le ballon pour lui, quoi. Donc, c'est pas évident d'être numéro 9 dans des situations pareilles. Je voulais revenir sur l'histoire de remontada, de journaliste et tout. Non, ils se mettent la pression tout seuls, les Parisiens. Et ils ont qu'à aussi… même Verratti, il ne savait pas faire un contrôle ou une passe. Il a mis des passes de maçon sans arrêt.
Arrête. Verratti, c'est… Verratti, c'est Verratti. Tu touches pas.
J'ose espérer que l'entraîneur de forcer à regarder le match, parce qu'il y a deux ou trois gars à recruter, là, encore une fois. Entre Paredes et Danilo, je pense que Danilo, il est peut-être même trop juste physiquement pour forcer. Mais… Je vois bien aux finances, moi.
T'inquiète pas, Paredes, on ne prend pas non plus. Hein. Nico, quand tu veux intervenir, tu mets vraiment la main devant ton écran parce que autrement, je ne vois pas. Hein. Donc, c'est Gilbo et Nico ensuite.
Oui. Je voulais quand même souligner que Fred est vraiment excellent, hein, c'est vrai, dans toutes ses interventions. Il a un seul problème, c'est qu'il a la mémoire courte. Il a oublié le match aller, tu vois.
Et que
Mbappé nous a quand même qualifiés, mais bon, après… Oui.
On fait l'analyse du match retour, hein, si tu veux. Là, on ne parle pas d'un match il y a 3 ans.
Eh ben, c'est là que vous vous trompez tous. Ce n'est pas un match aller, un match retour, c'est un tout pour moi. Et psychologiquement, c'est un tout. Il faut voir ça comme 180 minutes de football et pas 90 plus 90.
Et je veux dire… Ouais, excuse-moi, je n'ai pas fini. Juste rapidos. Il y a d'intéressant, c'est de quand même qu'on voit que Paris a réglé ses problèmes, notamment de Gaulle. Donc ça veut dire qu'ils progressent et ils ont quand même trouvé des solutions et ça c'est hyper intéressant.
Intéressant Nico, ce que tu dis la parole. Là, mon Gilbo.
C'est ouais, Nico. T'as raison, Gilbo, ils ont un gardien.
Non, mais là
ont…
c'est Nico là, Fred.
Pardon.
Donc oui, non, moi alors, je suis une fois de plus pas d'accord avec vous parce que Dembélé, pour moi déjà, il bouffe la feuille de match, il doit les mettre ses occasions et lui doit qualifier Barcelone hein, directement. Il doit les mettre hein, parce qu'il les tire sur le gardien. Et après,
mais bon, bah, attends, Nico, Nico, il se les crée tout seul. Donc si c'est…
Non, t'as pas vu les passes qui ont été mises à Dembélé, c'est des passes de malade. C'est Messi qui le sert sur le dernier face-à-face en première mi-temps face à Navas. Là. Non, franchement, pour moi, il doit les mettre.
Hein. Il y a un en particulier.
De match.
Oh la vache, vous êtes vachement dur parce que moi je trouve que Dembélé c'est pas du tout le genre de numéro 9 ou en tout cas attaquant qui attend la balle et qui va la pousser au fond. C'est le mec qui se construit toute son action quasiment tout seul et à la fin, ouais, certainement manque de lucidité, brouillon, tout ce que tu veux.
Il aura une qui est vraiment énorme, c'est vrai.
Fred.
Mais pour…
Ouais, non, vas-y Nico, vas-y, fini.
Et pour revenir, pareil, je suis pas d'accord avec Fred sur Mbappé. Hier, c'était le seul joueur qui pouvait garder un minimum le ballon. Alors oui, ça, son truc, c'était de faire de la contre-attaque et de partir avec le ballon, mais il y avait que ça. Il n'y a pas de milieu de terrain qui venait l'aider, lui demander un 1-2, ne serait-ce qu'un 1-2. Ils étaient tous effondrés. Il n'y a que quand Di Maria est rentré, ça a été mieux, et Diallo qui a fait son affaire. Mais sinon, Mbappé, il était seul. C'était le seul qui pouvait nous garder le ballon.
En deuxième mythe. En première, c'est pas lourd quand même. Hein. Fred.
Non, mais je suis d'accord qu'il n'a pas été aidé par le milieu de terrain, ça c'est une certitude, ça c'est évident. Mais de temps en temps, il est d'une suffisance folle. Et puis, si tu veux, c'est lui aussi qui met qui déséquilibre l'équipe complètement, parce que les premières 20 minutes, Kurzawa, il est toujours avec deux joueurs face à lui. Toujours, toujours, toujours. Bon, normalement, à ce niveau-là, tu saisis quand même assez facilement qu'il faut te replacer sans avoir besoin de jouer deuxième arrière-gauche, mais au moins de gêner la ligne de passe et tout. Le mec, il marche, il est 20 mètres devant et il laisse son arrière-gauche tout seul. Mais il a de la chance, hein, parce que ça aurait été les arrière-gauche, à l'époque, Lizarazu et tout, ça aurait fini en pugilat, parce qu'il l'aurait rappelé rapidement à l'ordre en disant « viens m'aider ».
En même temps, Fred, il fout le boulon à Ingesa aussi. En 20 minutes, le mec, il est sorti.
Ah, il ne voyait rien en face, le pauvre Ingesa.
Il fout le boulon à son arrière aussi.
Ouais. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Fred, sur le fait que ça aurait été Lizarazu ou des mecs comme ça, Tramp, Thuram ou des choses comme ça. Un Mbappé, il est ingérable. C'est ingérable. Tu sais qu'il ne défendra pas. Donc, à l'entraîneur de faire en sorte de combler ce côté gauche sans l'aide d'Mbappé. Griezmann, il va aller aider. Des Ribéry, à l'époque, quand il était jeune, il allait aider défendre. Mais un Mbappé, tu le sais. L'entraîneur doit prendre ce facteur-là en compte.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis persuadé qu'il fait la même prestation en équipe de France. Au bout de 25 minutes, il est sur la touche. Deschamps, il le sort. Ah, et tu verras qu'en équipe de France, il n'aura jamais ce comportement-là. Et ouais, je te dis. Le meilleur exemple en équipe de France, c'est Pogba. Pogba en équipe de France, il est transformé par rapport à Pogba à Manchester. Tout Pogba, simplement parce que l'autre, si tu t'appliques pas les consignes, tu joues pas.
Pogba, je suis d'accord. Même Mbappé, pas sûr. C'est Nico.
Ouais, non, moi je pense que ça vient aussi tactiquement. Je pense que malheureusement, on aurait dû jouer à 5 derrière parce que c'est vrai que Jordi Alba et Dest. C'était deux pistons et ils jouaient à 3 mètres de nos arrières latéraux, nous les Parisiens. Donc, je n'ai pas compris comment il n'a pas pu capter qu'il fallait mettre quelqu'un sur eux et que ça soit du marquage individuel, limite, sur ces deux-là. Quoi. Et donc, on aurait dû passer, je pense, à 5 derrière. Ce n'est pas forcément Mbappé qu'il faut reprocher de descendre jouer à côté de Kurzawa en première mi-temps. Je pense que les gars, ils étaient trop loin des latéraux parce qu'eux, ils étaient comme s'ils avaient 4 attaquants en fait, devant. Donc, à 4 derrière, ce n'était pas tenable.
Alors, va chercher quelqu'un, et après on passera, va chercher quelqu'un qui va aller défendre sur Jordi Alba, et ben on va appeler mon pote Benoît Nicolas de Bretagne, parce que je pense qu'il faut être spécialiste de 1500 mètres, ou en tout cas de 10 000.
Ah ouais.
Le mec, c'est un truc de barjo, ça fait 10 ans qu'il fait des allers-retours de cinglé, je le trouve fabuleux, moi, ce Jordi Alba-là, fabuleux. Lionel.
Oui, juste un mot, parce qu'on n'a pas parlé de Messi, c'est quand même une page qui se tourne, parce que normalement, ça aurait été lui qu'on a parlé en premier, peut-être Mbappé, mais du Messi. Et là, bon, il a mis un très, très beau but, mais j'aimerais bien avoir vos commentaires sur le reste de sa prestation.
Eh bien, si tu veux, Lionel, ça devait venir après, mais ça peut être ça. Fred, c'est sur Messi ou sur autre chose ?
Ouais, sur Messi.
Vas-y.
Messi, concrètement, il fait un bon match. Hein. Il sert quelques caviars. Il met un but fabuleux. Bon, bah, bien sûr, c'est terni parce que c'est aussi lui qui est responsable du non-basculement de la rencontre parce qu'il loupe son pénalty. Après, c'est pas le premier pénalty qu'il loupe, malheureusement. Enfin, qui loupe ou c'est Navas qui fait un super arrêt au choix.
Non, Fred, non, c'est une honte de tirer.
Non, mais il est mal tiré, ouais.
C'est une honte. Donc, me dis pas que c'est Navas qui fait un bel arrêt. On te le dit tout le temps, ne tirez pas à mi-hauteur, à droite ou à gauche. Et là, c'est même pas près du poteau, hein. C'est aux deux tiers du but. C'est ridicule de tirer comme ça. Après, j'en veux pas à Messi, hein. Il va le tirer, son péno. Mais là, pour le coup, il est raté, son péno. On va pas lui donner d'excuses.
Mais autrement, il fait un bon match.
Oui, très bon match. Très, très bon match. Par contre, moi, par rapport à ce que tu dis, Lionel, tu vois Ronaldo donc disparaît aussi de la Ligue des Champions et plus que critiqué pour le coup, parce que tu as raison, Fred, Messi fait un très bon match, ce qui n'est pas du tout le cas de Ronaldo. Après, c'est sûr, hein, c'est toujours pareil, on a droit de rater des matchs, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on, là, on n'est pas à la fin d'une ère, cette fameuse ère Messi-Ronaldo qui date depuis 2007 ou 2008, je crois. Est-ce qu'on n'est pas à la fin de l'ère catalane? Est-ce qu'on n'est pas à la fin de l'ère de la Juve? Même dans son calcio, il n'y arrive plus. Moi, j'ai toujours du mal sur ces fins, ces crépuscules. Je trouve ça toujours des moments difficiles, comme toi, tu peux vivre peut-être, Fred, avec ton fameux Roger. Tu sais que c'est la fin. On va basculer dans une autre époque, quoi. Et là, je crois qu'on y est là.
Barcelone a été bon quand même. Barcelone a été bon hier. Était vraiment très intéressant.
Barcelone était bon. Mais est-ce qu'ils font le même match si Paris n'est pas dans cette disposition-là? C'est ça aussi, hein. Faut le voir, le match.
Je ne sais pas, c'est difficile à savoir.
Fred.
Ouais, puis Barcelone a réglé aussi une chose entre le match aller et le match retour, c'est qu'ils ont positionné De Jong en arrière central et je l'ai trouvé très très bon. Et une super relance, super dynamique. Et en fait, comme il est vif, il a beaucoup gêné aussi parce qu'au match aller, on avait bien aimé Icardi qui avait gêné les défenseurs centraux. Mais c'est aussi parce que les défenseurs centraux, c'était deux tracteurs quoi au match aller à Barcelone. Alors que là, De Jong qui est vif, qui est technique, oh, pff, mon pauvre Icardi, il était à deux tensions en face. Quoi. Donc ça, c'est une belle trouvaille de Koeman. Après, c'est toujours dommage parce que De Jong, il peut jouer partout. Il est tellement fort comme joueur. Et c'est pour ça que sur l'avenir, tu parles de l'équipe catalane. Barcelone, quand même, ils ont du potentiel. Il va falloir qu'ils rectifient le tir sur quelques joueurs. Ils ont des trous. Mais je pense que c'est une équipe qui peut encore faire quelque chose. Contrairement à la Juve, où la Juve, c'est vraiment inquiétant parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Quoi.
Ouais, et j'avais vu Barcelone en, ça devait être Coupe du Roi là, ils avaient remis en place leur jeu ben pour le match retour contre Séville et c'était très très fort. Nico,
ouais. Ouais, donc je suis d'accord avec Fred, c'est que Barcelone depuis quelques matchs, ils ont changé de formation. D'ailleurs, ils ont fait une remontada en Coupe du Roi, je crois, face à l'Atlético Bilbao, je sais plus quelle équipe. Séville. Ouais. Mais justement, depuis qu'ils ont cette nouvelle formation, et ben ils reprennent un petit peu comme à l'époque de Guardiola, ils arrivent à asphyxier en fait l'adversaire. Et donc là, je pense que sur la dernière partie, à la fin de saison, Barcelone va terminer très très bien, je pense.
Ouais, avec ce petit souci quand même qu'ils avaient à l'époque, ce qu'ils arrivaient à très très bien à faire à l'époque, c'est-à-dire rentrer dans le but avec le ballon puisqu'ils avaient effacé tout le monde. Maintenant, ils continuent à vouloir effacer tout le monde, sauf qu'il manque l'avant-dernière et la dernière des petites connexions, ce qui fait que le mur en face, quasiment un mur de handball face à une attaque de handball, c'est vrai que ça passe beaucoup moins bien. Gilbo.
Ouais, je pense que le problème de Paris, au-delà de pourquoi ils sont fébriles, parce qu'en fait, Paris, on ne sait pas comment ils jouent. On ne sait pas ce que c'est que leur jeu. Ça change tout le temps. Ils n'ont pas de fond de jeu. On n'a pas. Tu as Liverpool, tu as des certitudes, tu sais comment ils vont jouer, Madrid, enfin, tu vois. Et Paris, il y a le nouvel entraîneur, tout ça. Mais je trouve que comment tu définis Paris, et là, ça manque de certitude. Ils n'ont pas de plan de jeu, ils sont obligés de s'adapter. Et là, dans une situation pareille, ça les met en difficulté.
Alors, moi, je pense. Peut-être. Fred, et on avance.
Ouais, Gilbou, il a raison. Depuis qu'en fait, ils ont perdu Mota, parce qu'en fait, ils créaient du jeu quand ils avaient Mota, Verratti. Et éventuellement Rabiot. Là, il y avait du jeu. Et par rapport à ce que disait Gilbo, en disant que Paris avait rectifié le tir, ils avaient un gardien, bah maintenant ils ont un gardien, mais ils n'ont plus de milieu de terrain. Donc, ouais. Ils n'arrivent jamais à avoir tout.
Alors, justement, le milieu de terrain, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément vu le match, c'était du Paredes, si vous connaissez, du Gay et du Verratti. Gay, on sait comment il va jouer. Pour le coup, il a été plutôt pas mal hein, dans son rôle. Il a du déchet, mais on ne s'attend pas non plus à ce que ce soit un joueur extraordinaire. On a Verratti qui, pour moi, là, prend le poste de numéro 10. Et on le transforme en 10 et il fait son match parce que c'est pas forcément son poste. Et on a Paredes qui n'existe pas, qui ne sert à rien, qui est censé créer des relations défense-attaque, ce fameux joueur box-to-box, qui il ne fait rien, il apporte rien. Ce mec se regarde, ce mec passe son temps à pleurer, à hurler. Et je ne comprends pas, quand tu regardes le banc du PSG, bah pourquoi à un moment, Pochettino, bah tu parlais tout à l'heure, toi, je ne sais plus qui, peut-être Fred, au bout de 20 minutes, vous me sortez Mbappé. Putain, je suis Pochettino, moi, Paredes. Bah j'ai compris que, bah comme vous dites, il se fait dessus. Et en plus, il a ce petit air arrogant, moi, qui m'agace. Bah quand tu es nul comme ça, au moins, ne sois pas arrogant, quoi. Nico et Fred ensuite.
Ouais, donc là je suis d'accord avec toi sur hier soir. Mais moi à la fin de la première mi-temps, je crois que je vois une photo, enfin la caméra sur lui, je me dis mince, il est sur le terrain, tu vois, j'ai carrément zappé qu'il était sur le terrain.
C'est vrai.
Mais par contre non, depuis quand tu vois le match aller qu'il a fait, il était énorme.
C'est vrai.
Et ce qu'il y a, c'est que l'une de ses qualités principales à lui, c'est sa grinta. Et hier, c'est ça qui m'a impressionné, c'est le joueur qui m'a le plus déçu. Je suis d'accord avec toi hier, parce que lui faisait partie des joueurs qui savait pas quoi faire du ballon et voulait pas le demander, avait peur de la perdre. Et ça m'a impressionné parce que lui, normalement, au niveau du mental, aussi quelque chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est bien ça, c'est sa grinta et sa rage de vaincre. Et donc, il a pas peur normalement. Et
donc, il y a un mec quand même. Là-dessus, il m'a déçu. Il y a un mec sur le banc qui est quand même payé pour faire des changements. Eh ben, putain, prends tes responsabilités. Hein. À un moment, on a viré 15 entraîneurs en machin. Ben, il y a un moment, peut-être qu'un entraîneur de foot, au lieu de faire tous ces changements à la 65e, 70e, il y en a peut-être un qui va comprendre. Ben, mon mec n'est pas dans son match. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de rater des matchs. Ben, s'il faut le sortir au bout de 10 minutes, on le sort au bout de 10 minutes. On ne laisse pas faire un naufrage comme ça, Fred.
Ils sont qualifiés, hein. Ils sont qualifiés, Benoît.
Ouais, mais surtout qu'il a du monde sur le banc, parce qu'il a Rafinha, qui est un très très bon joueur. Donc c'était l'occasion de le relancer, effectivement, de se dire bon bah voilà, on donne les clés cette fois, parce que ça peut arriver effectivement qu'un joueur loupe son match. Et là, ça a traîné. Et on sait très bien que si Paredes n'est pas au niveau, bah, Gay, effectivement, il est très fort sur le joueur pour mettre la pression. Mais après, il a deux parpaings à la place des pieds.
C'est compliqué.
Donc, il a perdu directement derrière. Donc, ça relance à chaque fois l'équipe adverse.
Mais ce n'est pas lui qu'on attend sur ce geste-là. Ce n'est pas lui qu'on attend. Donc,
bien
on
sûr.
Le sait. Ça, c'est des trucs qu'on sait dans l'équipe. Donc,
mais il
faut un Paredes au niveau à côté.
Voilà, il faut que Gay, t'en aies qu'un dans l'équipe. Il ne faut pas que t'en aies plusieurs dans le même match, quoi.
Un petit dernier avant la pause musicale, on en a un petit peu parlé déjà. Les gars, vous allez déjà me faire les goals sous l'air Qatari du PSG, parce que là, on vient de voir un très, très grand gardien hier. Alors moi, depuis le début, moi, je ne regarde pas beaucoup les matchs du PSG. On me dit Navas. Ben, là, c'est vrai que c'est extraordinaire, Navas, ce qu'il arrive à faire, quoi. Donc, vous allez me commencer les goals de l'ère Qatari, hein, messieurs. Donc, c'est Gilbo, Fred, Lionel et Nico, ensuite.
Gigi Buffon.
Fred.
Kevin Trapp.
Ouais, bien, ouais.
J'avais Lionel. J'avais peur que tu passes, justement.
Ah, c'est drôle.
Je sais pas.
Une petite farce. Non, t'as pas, Lionel. C'est pas grave. Nico.
Sirigu.
Ouais, Sirigu, ouais. Ouais. Fred.
Alphonse Areola.
Areola, tout à fait.
C'est mon tour.
Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, Gilbo.
Du coup, j'avais Areola.
Ouais.
c'est pas dans.
Areola.
Fred. Rico.
Ouais, non, ça compte pas les doublures. Hein.
Mais si, c'est un gardien.
Du Duchesse, ça sert à rien, ça.
Ah, si.
Si, c'est un remplaçant.
Bon, c'est pas grave. Il vous manquait Joël Batz, messieurs. Honneur aux grandes années. Ouais, ce Navas, là. Donc, moi, déjà, j'ai pas compris le gars qui quitte Real et qu'on échange avec Areola. Parce que moi, je croyais qu'Areola, c'était l'avenir de Paris. Et là, on nous fait un changement. Un bon gardien contre un crack de chez crack. Donc, qu'est-ce qu'ils ont foutu, Real, avec ça, là, Fred?
Bah, c'est parce qu'ils ont engagé Thibaut Courtois, donc qui était soi-disant le numéro un mondial. Donc Navas, il était doublure, donc il voulait pas rester doublure puisque il avait permis au Real de gagner 3 Ligues des Champions. Donc lui, il a trouvé ça gonflé. Donc c'était la bonne porte de sortie parce que Areola, il partait aussi pour faire la doublure de Courtois, quoi. Donc
t'es le Real Madrid, t'as Navas dans les caisses et tu vas chercher un Courtois.
Bah, ouais, exactement. Alors affûté, ouais. Sachant que Zidane ne voulait pas laisser partir Navas. Hein.
Ouais,
mais bon, l'autre il a fait le forcing, puis c'est aussi pour service rendu parce que c'est notamment grâce à lui qu'ils ont gagné plusieurs Ligues des Champions.
Ouais, il est monstrueux, c'est Lionel et Nico ensuite.
Oui, ça me fait assez plaisir parce que je me rappelle qu'il y a quelques semaines tu avais demandé tu nous avais demandé quel était pour nous le meilleur gardien du monde. Moi j'avais dit Navas et vous aviez rigolé. Là je crois que c'est pas mal. Ah si.
D'où rigoler? On n'avait pas rigolé, Lionel. Je trouvais un très bon gardien, il n'y a pas de souci. Mais hier je l'ai trouvé exceptionnel. Mais je te dis, parce que moi je regarde pas tout, c'est Nico et Fred.
Ouais, donc Navas, il faut savoir que c'est le gardien le plus sous-coté du monde. Il faut savoir qu'à 27 ans, le gars jouait encore à Levante. Après, il a suffi en 2014 de faire une super Copa América. Il emmène son équipe en quart de finale. Et c'est lui l'homme de sa sélection. Après, il est recruté au Real Madrid. Au départ, je ne sais même pas, c'est pas comme doublure. Et après, il prend la place de Diego Lopez, je crois. Et puis après, il est installé. Et puis, il gagne ses Ligues des Champions. Mais là, nous, on a fait la meilleure des affaires possibles. Ils ont voulu se mettre sur Thibaut Courtois. On a fait la meilleure des affaires possibles.
Énorme, c'est Fred et Gilbo.
Ouais, alors d'un autre côté, on l'a vu aussi dans son là où il brille. Il est très très fort sur sa ligne.
Très très.
D'accord. Fort. Et par contre, il est un peu plus juste au niveau des sorties. Puis tendance, quelquefois, il a les mêmes pieds que Dembélé. Donc là, on l'a vu, il est très fort. Il a beaucoup de réflexes. C'est vrai qu'il est toujours bien placé aussi sur sa ligne. Donc là, c'était un match pour lui. C'est un match où il brille. Et c'était déjà comme ça du temps de Madrid. Il était très fort sur la ligne. Par contre, il est un peu moins à l'aise. Et donc, il a souffert de la comparaison avec Neuer, etc. Où Neuer est très fort sur sa ligne, mais aussi très fort comme quasiment 11e joueur de champ. Ouais. Et Navas, c'est plutôt un gardien à l'ancienne par rapport à ça, quoi.
Je te laisse la parole, Gilbo. Je répète juste que quand tu regardes jouer ces mecs-là, juste avant le match de Paris, tu avais du Rennes de Marseille. Et tu as ces gardiens qui essaye de jouer en manière Ligue d'Ech, qui essaye de relancer propre, et c'est tout à leur honneur, mais c'est catastrophique. Et là, t'enchaînais les deux matchs, un à 19h, un à 21h, et tu voyais un monde entre les deux. Tout le monde essayait de jouer au foot, mais par contre, bah, tu avais 11 Playmobil, et, enfin 22 Playmo et 22 footeux. Gilles Bott, hein, toi, tu vas me dire que Rennes était extraordinaire.
Non. Bon, bah, j'allais dire à peu près ce qu'a dit Fred, mais comme tu donnes toujours la parole à Fred avant, alors juste... simplement Navas, en fait, c'est pas un gardien moderne. Hier, d'ailleurs, il a eu des problèmes de relance. Il a balancé le ballon plusieurs fois. Ça a mis aussi le Paris en difficulté. Après, je sais que les non spécialistes l'ont pas vu, mais quand tu connais un peu le football, ça
c'est assez clair hier. Bien sûr, Gilbeau.
Et pas ça pour toi, Benoît. Attention.
Bravo à toi, Gilbeau. on va faire la petite coupure, messieurs là. Alors, on est très très football, mais écoutez. C'est pas tous les jours quand même que le PSG se qualifie en quart de finale. Donc on va continuer là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Sur une défense, si vous êtes assez tacticien, vous verriez comment l'Anglais défendait sur Mbappé. C'est un scandale monumental. On en parlera tout à l'heure, juste après la coupure musicale. À toi, Joël. À tout à l'heure, messieurs, dames.
Such a beautiful horizon, Barcelona, like a dream.
Et nous revoilà après cette joyeuse coupure musicale. On est toujours PSG. Désolé hein, pour ceux qui en ont déjà beaucoup trop bouffé, comme moi, notamment sur toute l'équipe du soir et ainsi de suite. Mais là, on peut développer des petits sujets qui ont trait forcément au PSG, mais qui touchent plusieurs joueurs du championnat, puisque c'est un petit peu les mêmes caractéristiques également. Puisque là, on va vous parler d'un capitaine. Pour le coup, moi, quand je vois Marquinhos capitaine, je me dis c'est exactement ça, quoi. On s'est souvent posé cette question, qu'est-ce que c'est un capitaine? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme valeur? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme jeu? Qu'est-ce que la... Bah, vous regardez un Marquinhos, le mec, ça harangue son équipe non-stop. C'est, tu ne peux rien lui dire sur sa mentalité, tu ne peux rien lui dire sur sa hargne, tu ne peux rien lui dire sur son jeu. Le mec a tout bon de A à Z et quand il se loupe, bah, le mec va aller batailler pour se reprendre, comme pas, tout, comme, pas comme tous ces pimpins qui perdent un ballon et qui regardent ce qui se passe autour. Non, lui, il a la rage, il va aller chercher sa balle, il sait qu'il a fait une connerie, et ben il va se battre. Bah, moi, le mec, il a tout pour être l'excellent capitaine, j'espère, des 5-6 prochaines années de Paris. Fred ?
Ouais, c'est l'objectif. Après, où il a été très fort dans ce match, c'est qu'il a commencé par prendre, par, j'ai dire, prendre des courants d'air. Dembélé l'a plusieurs fois surpris par sa vitesse et il a bien rectifié le tir. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui auraient complètement coulé. Style un Langlais, on ne l'aurait plus revu du match. Umtiti, il sera allé se pendre. Et bah lui, Marquinhos, ouais, il a rectifié le tir. Et au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus décisif. Et il a su se reprendre. Donc ça, c'est effectivement, c'est très fort. Et c'est-à-dire que le gars, psychologiquement, il est costaud, quoi.
Mais alors, là, c'est pour les techniciens, entraîneurs et ceux qui suivent un peu tout ce qui se passe au niveau défensif sur un match de foot. Je ne comprends pas, moi, le discours des entraîneurs. C'est vous avez un Dembélé face à vous, vous avez un Mbappé face à vous. Un petit peu le même profil, des génies qui vont très, très vite et en plus, qui sont hyper techniques. Putain, mais vous n'allez pas me mettre un mec à défendre sur un type comme ça. Vous allez vous faire bouffer. Regardez l'Anglais. Donc, l'Anglais, c'est le défenseur de Barcelone qui joue au centre. Et à un quart d'heure de la fin, vous avez Mbappé qui arrive face à lui et il se fait mais enrhumé, mais comme un enfant, sachant qu'il faut défendre. Tu dois défendre ton aile puisque le centre est pris par tes partenaires. On ne laisse pas en face à face des monstres sacrés comme Dembélé et Mbappé. On ne laisse pas un mec tout seul face à ça. Et l'Anglais... L'Anglais, il défend comme s'il était seul, alors qu'il a ses partenaires avec lui. Si... Alors, je l'exprime peut-être pas très bien, mais c'est à regarder. C'est un truc, c'est un cas d'école de défense. C'est une honte de voir ce que fait l'Anglais. Et moi, je comprends pas qu'est-ce qu'il fout toujours dans cette équipe. Fred.
Ouais, mais je pense que l'Anglais, il sort de son match déjà suite au pénalty. Parce qu'il sait qu'il enterre son équipe à cause du pénalty dont il est responsable. Et le pauvre vieux, là, c'est un scandale parce qu'il n'y a pas du tout pénalty. Ouais. Il ne regarde pas. Bon, OK, il arrache la chaussure d'Icardi, mais Icardi, il traînait ses gros sabots-là. Bon, il avait 10 secondes de retard sur l'action. Donc, ouais. C'est complètement cruel. Et effectivement, l'Anglais, ça fait 3 mois qu'il a la tête dans le seau. Donc, je pense que ça le termine.
Non, mais fous-le-moi dehors, Fred. Putain.
Ah, mais c'est qu'ils ont personne.
Sur cette action de Mbappé, tu sais qu'Mbappé, tu sais qu'il va dribbler à gauche, tu sais que le mec, il va te bouffer en vitesse et que techniquement, il est parfait. Tu sais tout. Le type, il sait tout ce qui va se passer. Ben, il défend quand même de cette manière-là où il prend le centre au lieu de prendre l'aile. Ben, je trouve que c'est. Enfin, faut être professionnel.
L'Anglais, il va jouer l'Euro quand même, hein, t'inquiète pas. Il a marqué des points avec Deschamps, il n'y a pas de souci. Hein.
Ah bon?
Il est en équipe de France, Anglais.
Ah bah je l'y vois pas du tout moi, Nico.
Il y est.
Bien, c'est que l'année dernière c'était le meilleur défenseur de la saison quasiment, avec même plus que Piqué, je crois. Hein. Donc il fait une super saison l'année dernière, mais là il est dans une période actuelle où il est dans une spirale négative et malheureusement c'est vrai qu'il enchaîne les erreurs et puis il y a pas grande concurrence hein, en défense et c'est grâce à ça qu'on passe aussi parce qu'ils ont pas une super défense, Piqué est pas là. Mais l'Anglais ouais, il est dans les plantes des champs malheureusement.
Ouais, et ben ça fait partie de ces joueurs dont on a déjà parlé les semaines précédentes. T'as l'impression, les gars, ils font une saison et derrière ils sont sur les tablettes de tout le monde et ils font leur carrière sur une saison. Le fameux Gourcuff à Bordeaux. Ben moi je trouve là l'Anglais, t'as le droit d'avoir une mauvaise phase. Bon ben on te met sur le côté, ça paraît plutôt logique, Fred.
Mais non, mais l'Anglais, il a la même difficulté, la même problématique que Varane par exemple. C'est-à-dire que l'Anglais, il peut pas être tout seul en défense centrale.
Ben, il ne peut pas.
Il faut un guerrier à côté de lui. Ouais. Parce que c'est un gars qui est en général bien placé, qui a une relance propre, qui a plein de qualités. Par contre, il a un gros défaut. Hein, il n'est pas très, il est pas dur sur l'homme. Et il n'est pas très rapide. Donc, il lui faut forcément un Puyol, un Ramos à côté de lui. Malheureusement, à Barcelone, il n'y a plus personne. Avant, ceux qui jouaient, un qui pouvait jouer ce rôle-là, c'était Umtiti. Ils n'ont plus ce type de joueur. Donc, il est un peu seul. Et là, ses difficultés ou ses faiblesses sont flagrantes.
Ah, ben, c'est effectivement flagrant. C'est terrible. On avait piqué il y a trois semaines. Piqué se fait dévorer de A à Z. Il est viré. Là, l'anglais, c'est la même chose qui se fait dévorer.
Piqué, il n'est pas viré, c'est qu'il est blessé. Il s'est fait une entorse du genou au match d'avant. Mais Piqué, quand il s'est enrhumé il y a trois semaines, ça faisait trois mois qu'il n'avait pas joué. Et tu mets Varane au Real, quand il n'y a pas Ramos, Varane, tu dirais le stopper de forcé. Donc concrètement, c'est des joueurs qui ont besoin d'être accompagnés. C'est pas des leaders.
Ça, c'est clair. Nico.
Alors oui, je voulais pour conclure là-dessus, imagine la défense à l'Euro, c'est Varane l'anglais.
Il manque quelqu'un. Ne te permets jamais de dire pour conclure là-dessus, c'est moi qui décide quand un sujet est terminé. Okay. En tout cas, l'idée c'était que messieurs les tacticiens, ne arrêtez de me laisser un seul défenseur face à ces génies du ballon là, qui sont complètement moins prévisibles tellement ils sont doués. Défendez à deux, s'il vous plaît, c'est beaucoup trop difficile. On va parler de grands joueurs, Lionel. On va parler de grands joueurs, et ensuite ce sera à toi qui retourne au bercail en tant qu'entraîneur. Vous allez essayer de m'en citer. Alors je veux vraiment du mythique qui revient dans son club mythique.
Comme Zidane, par exemple.
Comme Zidane qui revient au Real, c'est excellent, mon Gibon.
Ah ouais.
Je suis Fred de là-haut.
Donc Cruyff à Barcelone.
C'est très bien. Il y a pas mal d'exemples sur Barcelone, ouais. On est à Lionel.
Je sais pas.
Ah, t'as rien du tout?
Non.
Ça, c'est rien que sur Barcelone, t'en fais 3 ou 4.
Ouais, Nico.
Pochettino.
Ouais, Pochettino. Il
était joueur à Paris.
Non, mais rigolo, c'est un mythe de Paris. Quand il cite Paris, tu cites Pochettino, toi, dans les joueurs.
Bah, il est parti d'un des meilleurs défenseurs. Pour moi, si, c'est validé.
Ah, non, il n'a pas compris le jeu, mon Nico, putain. Dis-moi Gabian, dis-moi Rai, dis-moi, j'en sais rien, mais Pochettino. Moi, toi, tu valides quoi, toi, Gilbo? Non, c'est nul. Mais, par contre, je te garde dans le jeu parce que c'était quasiment ça. Fred?
Fernandez à Paris.
Voilà, ça, c'est excellent. Fernandez, c'est un joueur mythique. Lionel?
Deschamps à Marseille.
Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais quand tu vas dire Marseille, tu vas dire Papin, tu vas dire Waddle.
Non, mais c'est pas l'idée, là. Faut que là, t'abuses.
Ouais, j'en ai un.
Ça me gêne un peu. Ouais, Gilbo?
Comparé à Nantes.
C'est pas du tout ça le truc. Tu dis Endoram à Nantes. Fred?
Non, il aurait pu dire Alilozic à Nantes.
Ouais, oui. Ouais, plus, ouais, c'est vrai, c'est un peu plus mythique, ouais.
On a.
Qu'est-ce que vous en avez d'autres, ouais, Fred?
Bah, Koeman à Barcelone.
Voilà. Mais à Barcelone, il y a encore mieux, ouais, Gilbo.
Antonio Conte à la Juve. Ah, tu connais pas peut-être, excuse-moi. Si.
je comptais pas sur toi au départ, Gilbo. Vas-y, Nico.
Guardiola au Barça.
Voilà. Eh, merci. Oh. Et un dernier peut-être pour Fred.
On aurait pu faire parce que c'est passé. Enfin, mais Deschamps à la Juve, parce que Deschamps était revenu pour remonter, oui, faire remonter la Juve de la deuxième division en première division.
C'est vrai. Donc, par rapport à tout ça, Nico, vous voulez. Non, mais ça va être fini, les mecs. Ça lève les mains avec les merdes que vous m'avez dit tout à l'heure.
Henri à Monaco. Donner...
Je vais t'en donner. Pour toi-même le sujet. C'est le cas, tu vas pas m'attuder.
Vas-y, Nico.
Bernd Schuster au Real Madrid.
Ah, je valide.
Ouais, merci, Gilbo. Ouais.
Donc, ces grands joueurs, les gars, qui retournent dans leur club, est-ce que vous pensez que vous, c'est un risque énorme personnellement? Vous êtes l'idole du club. Vous êtes l'idole très clairement de votre club. Et vous allez revenir. Alors, peut-être pour faire comme Zidane, à savoir gagner 3 Ligue d'Eche, peut-être pour faire du Fernandez, à savoir mettre un peu le guignol de service et passer un peu pour une trompette. Quoi.
Oh, t'es dur, ouais. Avec Fernandez.
Fernandez, il gagne la Coupe d'Europe hein, quand même.
Ouais, on est d'accord. On est d'accord.
Mais, avec un but de Bruno Ngoti.
Fernandez, je le respecte, moi.
Avec un but de Bruno Ngoti qui avait trouvé un short ce jour-là à sa taille.
Fait très rare. Vous êtes dans la situation de ces mythes. Vous êtes un mythe. Donc, toi, par exemple, Fred, tu es un mythe des finances, toi, machin. Est-ce que derrière, tu irais entraîner les finances, même si ça peut écorner ton image vraiment d'idole vivante?
Ouais, ben non, parce que si tu veux, non, je ne prendrais pas le risque d'entraîner les finances. Parce qu'ils sont dans un tel état que...
Mais je ne trouve pas ça simple, moi. Je ne trouve pas ça un poste simple. Non, tu vois, Juninho qui revient, tout le monde l'annonce. Bah, ça y est, Lyon va repartir, mais machin. Mais non, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas parce que vous avez été une idole du club que vous allez être le technicien parfait.
Bah, si, c'est quand même plus... Excuse-moi, c'est quand même plus facile. Tu as un exemple vraiment très bon, c'est Leclerc à Lens. Le mec joueur mythique, il gagne le championnat. Hein. Il est sur le banc. Donc, c'est quand même... Globalement, c'est quand même plutôt des succès, tu vois.
Tu vois, tu aurais dû le citer, celui-là, tout à l'heure, Gilbo. Là, ça aurait été pas mal. Ouais. Fred.
Ouais, j'ai hâte de voir Tony Vérel à Lens, alors.
Ouais, Tony Vérel. Mais moi, je vous prends des papins, tu vois, des papins qui ont tenté des trucs. Bon, ben, Papin, bravo, super joueur, fabuleux, mais on sait très bien que Papin, c'est un joueur instinctif, quoi, qui va frapper au but, qui avait cette qualité énorme de tirer, de marquer. Bon, formidable. Mais il ne faut pas être grand tacticien pour comprendre que Papin, ça ne va peut-être pas être un mec qui va comprendre tous les emplacements sur le terrain et ainsi de suite. Fred.
Ah non, tu as quand même un super contre-exemple, c'est Zidane. Zidane, en tant que joueur, il était presque… Enfin, on le traitait quasiment d'autiste parce que c'était un super joueur, un artiste, mais on ne pensait pas que ce serait un meneur d'hommes. Et en fait, une de ses qualités premières, et on s'en aperçoit bien, c'est tout l'inverse de ce qu'il était comme joueur, parce que son équipe ne joue pas bien, mais par contre, il sait gérer les égos, il sait gérer les joueurs. Donc, c'est assez paradoxal, tu vois, c'est un super contre-exemple. Ouais, parce que les qualités qu'il a comme entraîneur ne sont pas du tout les qualités qu'il avait comme joueur.
Ouais, mais on parle de deux choses différentes là, Fred. On parle d'un tacticien et d'un meneur d'homme. C'est à Lionel, je suis désolé, Gilbo, c'est Lionel qui levait la main.
Oui, bon, on peut trouver parce que Gilbo donne des exemples, il y a des contre-exemples. Je prends Thierry Henry à Monaco, ça a été bref et pas très glorieux.
Pas glorieux du tout. Et pourtant, là pour le coup, autant Papin, c'est vrai que je suis un peu dur sur son sens tactique. Et, Thierry Henry, chaque fois que je l'entends parler football, il est extraordinaire. Gilbo.
Ouais. Et juste sur Zidane, je pense qu'il ne serait pas capable d'entraîner ailleurs qu'à Madrid.
Donc, c'est ouais. Peut-être.
Je pense. Là, du coup.
Et ce n'est pas la peine, à chaque fois que je ne t'interroge pas, de plonger dans ton fauteuil, l'air de dire putain, personne ne m'aime. Hein. Il y en a d'autres qui lèvent la main. Fred.
Ouais, je suis assez d'accord avec Gilbo. Je pense qu'effectivement, Zidane, ça sera l'entraîneur d'un seul club de Madrid. Ça, c'est une réalité.
Ça fait tellement plaisir de venir de toi.
Et je rebondis là-dessus parce que vous parlez de Zidane d'un seul club, mais est-ce que ça peut être aussi l'entraîneur d'une seule nation, je veux dire l'équipe de France?
Je suis Fred. Ouais. Fred.
Non, moi, franchement, je serais lui, j'irais pas. Il a une telle aura là, et puis il a une telle réussite, c'est tellement surréaliste qu'il faut pas, surtout qu'il aille pas se griller ailleurs parce qu'il a pas du tout les qualités d'un Deschamps. Deschamps, il est fait pour ça. Je pense que Deschamps, c'est le style de gars qui réussirait quasiment partout. Il a pris Monaco, il en a fait quelque chose. Il est retourné en deuxième div avec la Juve, il en a fait quelque chose. À Marseille, il a réussi à avoir des résultats. En équipe de France, il y a des résultats.
Avec Brandao.
Le gars, c'est très, très fort. Ouais, concrètement. Brandao. Alors que Zidane, c'est clair, il n'y a pas de plan de jeu au Real de Madrid, il n'y a pas de jeu. La seule chose qu'il sait faire, il a su bien gérer les égos. Donc,
c'est déjà pas mal. C'était Nico, je crois. C'était Nico. Non, tu n'as pas levé la main, Nico.
Il ira en équipe de France. Il va y aller en équipe de France, un jour ou l'autre.
Un jour ou l'autre. La question était à double entrée, messieurs. Donc, le fait, est-ce que c'était un danger de revenir dans son club mythique? La deuxième chose était, quand vous avez été, donc on va dire Zidane, qui avait absolument tout compris à son rôle de numéro 10 et à toute une animation offensive, comment vous transmettez ça? C'est-à-dire que vous allez avoir des joueurs avec vous qui vont être doués, mais qui ne vont pas instinctivement comprendre tout ce que vous aviez compris à l'époque. Comment on peut transmettre cette chose? Que vous, ça vous venait tout seul et les autres, non. Comment c'est possible, ça, Fred?
Je pense que c'est difficile à transmettre. Pour preuve, Zidane, il ne le transmet pas du tout. Thierry Henry n'a jamais réussi à le transmettre. Henry, il parle super bien du football, il connaît super bien le football. Malheureusement, il n'est pas programmé pour être dans la tête ou dans le corps d'un joueur lambda, d'un joueur moyen. Donc, c'est des choses qu'ils ne savent pas faire. C'est aussi pour ça que des gars comme Berlusconi, comme Deschamps savent faire, parce que ça a été de très, très bons joueurs, mais ce n'étaient pas non plus des joueurs d'une classe folle et tout. C'était plutôt des besogneux. Donc, eux, ils savent se mettre à la place du joueur moyen alors que la grande star super facile, par exemple, je pense que Messi sera, enfin, je peux peut-être me tromper, à mon avis, il sera jamais entraîneur, mais je sais pas s'il saurait transmettre son génie, quoi, parce que bah tout le monde n'est pas fait comme lui, quoi.
Non, c'était Gilbert.
Non, ouais, non, bah c'est ça. En fait, je crois que c'est Cantona qui l'avait dit, qui est jamais devenu entraîneur. Il dit, je pourrais pas entraîner des joueurs moyens, quoi. C'est pas possible.
Ouais. Mais voilà. Ouais, moi, pour le coup, moi, à l'inverse de Zidane, je pipe rien à toute la phase offensive. Par contre, je prétends à peu près tout comprendre en phase défensive. Et ben, quand vous devez dire aux gens, tu vois bien qu'il faut défendre sur ta gauche ou défendre sur ta droite ou orienter ton corps et ainsi de suite. Tu te dis, mais comment on fait à l'entraînement ça? Parce que tu ne vas pas être derrière eux à moduler ton joueur. Tu dis, ça paraît tout à fait logique que l'attaque va aller se déployer vers là ou elle va se déployer vers là. Et à ce moment-là, comment il faut défendre? Et je ne sais pas comment font tous ces tubes-là. Comme tu dis sur Didier Deschamps, partout, il réussirait. Parce que Deschamps, ça va au-delà d'un sens tactique. C'est ce meneur d'hommes et c'est ce type qui va réussir à faire passer un message au-delà du sens tactique. Mais tu vois, comme les Conte, comment ça fait un Conte avec son équipe d'Italie qui n'est pas flamboyante. Par contre, tout le monde est à sa place. Tout le monde joue parfaitement à sa place. Ben, bravo à lui, quoi. Bravo à lui à transmettre tout son génie défensif. Et je peux vous le dire aussi en tant que prof de PS, parce que très souvent, je m'énerve contre mes élèves à leur dire, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Je vous dis, en badminton, je vous dis, mais simplement, servez-vous de votre main gauche pour viser le volant et comme ça, vous tapez avec votre main droite. Eh ben, je me suis mis à jouer en gaucher, je me suis mis à mettre ma raquette dans ma main gauche et à me dire, fais la même chose du coup avec ta main droite, va lever la main pour frapper de ta main gauche. Ben, tout devient compliqué et donc ça ne sert à rien d'insister sur les gens, mais bordel, lève ta main droite, tout devient compliqué quand on ne comprend pas et c'est pour ça que la transmission doit être extrêmement difficile. Enfin, moi, je peux vous dire que dans mon métier, je n'y arrive pas tout le temps. Je ne sais pas si l'exemple était très clair, mais c'est parce que je vous dis, j'en souffre pas mal. Fred.
Non, mais tu vois, par exemple, je ne suis pas sûr qu'un Federer te ferait un très bon entraîneur, parce que le mec, pour lui, tout était facile, très simple. Voilà. Et je pense que le mec qui, au niveau cognitif, n'est pas aussi, aussi fin, ça accrochera jamais, quoi. Donc, je pense que c'est très dur.
Mais tu vois bien cette gestuelle de joueur de raquette, ce corps qu'il faut équilibrer avec sa main gauche et ainsi de suite. Putain, tu as des mecs. Quand on joue nous à nos petits niveaux, t'as des mecs, ils jouent en Playmobil, quoi. Ils sont jambes raides, bras raides, et ils frappent avec leurs bras. Putain, le mec, c'est une chorégraphie aussi, le tennis. Fred.
Ouais, mais c'est aussi parce que les circuits nerveux n'ont pas été faits, et il est trop tard quand c'est à la fin de l'adolescence ou quand t'es adulte. T'as de super exemples autour de toi, t'en connais beaucoup, où t'as beau leur expliquer, et la personne n'est pas trop conne, et pourtant, il se passe jamais rien, quoi.
Il se passe pas grand-chose.
Et je ne donnerai pas de nom.
L'OM, messieurs, vainqueur de Rennes quand même, je vous dis, puisqu'il y avait ce match juste avant, on est en train de vous dire que ça c'est pareil, les commentateurs juste après le match, il y a un renouveau à Rennes, c'est formidable ce qu'ils ont fait, ils n'auraient pas fait ça avant et tout. Bon, faut pas oublier que la victoire 1-0, elle est à 3 minutes de la fin et que à 10 minutes de la fin, il y a une barre et, de Rennes qui, pour le coup, pas de bol, c'est barre. Mais tu te dis, est-ce qu'on n'est pas, cette faiblesse de s'enflammer là pour un oui, pour un non, ça se joue sur un coup de bol monumental. Est-ce qu'on doit en tirer tout de suite des enseignements? C'est grâce à machin, c'est extraordinaire, ils ont des nouvelles valeurs et ainsi de suite. Non, ils ont eu une barre machin et c'est un gros coup de peau. Gilbert.
Bah oui, évidemment, c'est comment on appelle ça, la dictature de l'immédiateté.
C'est ça, tout à fait.
Ouais. Aucun recul. Mbappé était bon l'autre fois, c'était un génie. Hein. Ouais. Il y a certains commentateurs que je ne citerai pas. Hier a été moins bon, il ne vaut rien. Voilà, il faut prendre du recul. C'est une carrière. Moi, je juge à l'aune d'une carrière.
Mais est-ce que nous, Gilbert, à l'autre radio, un média bien au-dessus des autres, est-ce que justement, on ne doit pas se faire cet avocat du petit plus qui fait qu'on n'est pas dans l'immédiateté, on réfléchit un petit peu à ce qu'on raconte et ce n'est pas parce qu'on a eu un coup de peau de mettre un but à 3 minutes de la fin alors qu'on vient de prendre une barre miraculeuse qu'il faut se dire qu'il y a une ère nouvelle qui vient de naître. Fred.
Ah si, pour preuve, ça fait plus d'un an qu'on dit que Mbappé ne progresse plus. Donc, on ne s'est pas enflammé sur le match aller à Barcelone. On est dans un constat, dans la continuité.
Laval, messieurs, Laval dans la douleur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Laval descend, on s'est dit, pour le département, ça va être très compliqué parce que c'est une sacrée vitrine. Quand vous descendez à, j'en sais rien, à Marseille, à Bordeaux, quand vous dites que vous habitez à Laval, ils disent, ah ouais, Laval, le club et tout ça, c'était notre un petit peu marque de fabrique qui n'est plus là et qui est en train de sombrer un petit peu en national actuellement. Est-ce qu'on s'en est remis de cette descente? Est-ce que, comme toute chose, heureusement dans le monde, on s'habitue et on fait avec? Moi, je voyais, là, on est en train de récupérer le bateau de Maxime Sorel. On est en train de faire en sorte qu'il vienne dans le centre de Laval. Ça fait un énorme coup de pub autour de notre département. Est-ce qu'on n'a pas réussi à se réinventer autour de d'autres événements, comme notre nouvel espace aussi multisport? Est-ce que ce foot était finalement si essentiel que ça, Lionel?
Non, mais effectivement, comme tu dis, ça rebondit en termes de notoriété sportive. Le coup du bateau de Sorel, Vinby Mayen, sur les quais de Laval, c'est une très, très bonne idée. Je trouve ça très, très sympa. Je pense que ça va amener beaucoup de spectateurs, un peu de notoriété. Et puis, oui, la salle Omnisports avec le Tour de France, qui est quand même un énorme événement, et le contre-la-montre, tout ça. Là, il y a du lourd au niveau sport. C'est une manière d'exister, effectivement, tu as raison.
Ouais, et pour le coup, le département se démène très très bien à ce niveau-là. Fred et Gilbo ensuite.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord, parce que c'est pas la première fois qu'on accueille une étape du Tour de France, déjà de une. Ensuite, effectivement, c'est très bien l'initiative pour le bateau. C'est vrai que c'est très sympa pour les Mayennais, parce qu'il ne faut pas oublier que le département de la Mayenne a financé. Donc, nous avons tous financé cette expédition. Donc, c'est assez sympathique. Il y a eu un petit coup de projecteur, ça a duré 48 heures. Mais la force du Stade Lavallois à l'époque, c'était que c'était dans la continuité. C'était dans la continuité. Là, ce sont que des coups, donc on le mérite d'exister, effectivement, mais ça reste que des coups. Donc, voilà, c'est comme tu parlais de tes élèves tout à l'heure, de temps en temps, tu en as un qui fait un truc moins moche que les autres. Ça te satisfait pendant 2 minutes, puis après, tu retombes dans le marasme quotidien. Quoi.
Gilles Beau.
Ouais, complètement d'accord. C'est que de la com. C'est que de la com. Donc, il n'y a pas de fond. T'as pas de... Donc, ça ne va pas tenir longtemps. On se fait de la com pour un...
Ouais, mais alors, pour le coup, alors toujours, hein, je suis désolé, j'en parle beaucoup, mais quand on organise, nous, nos réunions UNSS, quand on touche les championnats de France, quand on reçoit, par exemple, le championnat de France de foot féminin, on voit sans arrêt un paquet de pognon qui arrive pour nous, pour notre pauvre petit sport scolaire, avec plein d'oriflammes, conseil général de la Mayenne, UNSS départemental, la Mayenne, ceci, cela, la Mayenne, la Maïf de la Mayenne et machin. Et je dis, moi, l'organisateur de tout ça, j'ai dit, écoute, c'est bizarre, parce que nous, toute l'année, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, et là, on fait un championnat de France, il y a du blé qui vient de partout, on offre des bouteilles de vin, on offre des saucissons, on offre des machins, des trucs, des choses. Et il me dit, ouais, mais tout ça, ça vous fait un département qui vit et ça fait une image de département. Et donc, ce n'est pas du blé foutu en l'air. Fred ?
Là, je rejoins complètement Gilbo, là, tu donnes un super exemple. C'est un petit coup comme ça, c'est juste de l'image et tout, alors qu'il ferait bien mieux d'être au quotidien, d'améliorer vos conditions de travail, c'est-à-dire d'avoir des lieux sportifs dignes de ce nom, ça paierait sur le long terme. Là, on se donne bonne conscience en finançant juste quelque chose, un petit truc comme ça, on fait une photo dans le canard, on est content, puis après, on s'en fout du quotidien. Alors que moi, je préférerais que les enfants soient dans des conditions décentes, avec des salles de sport décentes au quotidien. Et tu vois, plutôt que de financer cette salle de spectacle à je sais pas combien pour faire venir Gims, alors, tu vois, la gueule de la notoriété, tu vois, il ferait mieux de réinjecter ce fric-là au quotidien pour les Mayennais, pour avoir des infrastructures dignes de ce nom qui nous permettraient de travailler tout au long de l'année, qui nous permettraient de progresser sur le long terme.
Bravo Fred, ça c'est un vrai Mayennais, c'est Lionel et Gilbo ensuite. Ouais, et ne fais pas ton cirque Gilbo, c'est Lionel avant.
Oui, non, mais je voulais juste rebondir sur le côté compensation, parce que je suis à la base tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai même été à l'étranger, dans fin fond des Balkans, et parlé de Laval. C'était un Albanais qui m'a parlé de l'équipe de foot de Laval, quoi. C'est une réalité. Ça, je suis d'accord. Rien ne vaut le foot, hein, pour la notoriété.
C'est vrai,
je dis simplement qu'effectivement, il y a des vrais efforts. On parlait du Tour de France, c'est plus qu'une étape, c'est quand même un contre-la-montre. Je ne sais pas la dernière fois qu'il y a un contre-la-montre à Laval, mais ça doit remonter quand même. Voilà, mais j'apprécie simplement qu'il y a une vraie prise en compte d'événements sportifs pour la notoriété. Voilà, il y a plein de défauts, mais c'est des beaux efforts.
Et pas que sportif, Lionel, il y a ce fameux Laval Virtual. On est une référence high-tech de la France et voire du monde, hein, quand même. Donc, faut voir si ça se bouge aussi à ce niveau-là.
Gilbo, avant.
Oui. Alors, un exemple, on va peut-être arrêter sur le département, on ne va pas se servir d'autres radios. Et un exemple, structure, la voile, il paye un bateau de course, très bien. Mais moi, j'ai fréquenté la base de voile d'Aller Traversaine. Il y a eu un champion qu'on a reçu ici, Clément, là, bourgeois, qui est sorti grâce à la traversaine, tout ça. Je pense que dans le fond, c'était peut-être plus intéressant que ce bateau, que ceci dit, je vais aller voir quand même sur la Mayenne.
Moi aussi.
Intéressé.
Bon. Fred.
Non, puis on dit ce qu'on veut, parce qu'on est très fiers de Laval Virtual, mais tu vas à Saint-Nazaire, ils sont très fiers de ce qu'ils font aussi. Et puis tu vas dans un autre département, ils sont très fiers, ils disent que c'est eux les numéros 1 mondiaux. Donc c'est aussi beaucoup, beaucoup de com'. Donc, ça a le mérite d'exister, parce qu'il faut malgré tout exister. Mais il ne faut pas non plus se gargariser de tout ça. Quoi.
D'accord. Mais ayons une certaine fierté, Fred, quand même.
Et la fierté, on l'a, parce que pour l'histoire un petit peu du Tour de France, il faut savoir que l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France, c'est l'étape de Laval, gagnée par Mario Cipollini. Donc, c'est quand même… Ça, c'est une référence. Donc, ça, c'est très chouette.
Le roi, donc, Laval est associé au dopage. Super.
Super Mario.
Non, il avait le vent dans le dos.
Dernier petit sujet, ou grand sujet d'ailleurs, les gars. J'ai eu la chance d'être interviewé par le Courrier de la Mayenne sur l'avenir de nos clubs, sur cette période compliquée forcément pour eux, et sur les pratiques d'un adhérent. Donc, je suis encore adhérent à forcer. Et on me demandait, ça va être quoi l'avenir pour toi? Et je leur dis, moi, comme on vient de dire que Laval s'est réinventé après son stade de Lavallois, les clubs vont devoir certainement faire un effort aussi, puisque pendant toute cette période sans club, évidemment, on n'est pas resté inactif, on s'est trouvé d'autres activités, on ne s'est plus dans d'autres activités, et il va falloir que les clubs prennent ça en compte et prennent en compte nos nouveaux desiderata. Je m'explique, moi qui suis donc en club de foot, et je ne critique pas du tout la structure du club. Certains ont encore besoin de compétition, c'est parfait pour eux. Moi, ça ne me correspondait plus forcément. Maintenant, avec cette période hors club, je me retrouve à jouer avec des potes qui ont à peu près le même niveau que moi. Tout le monde est super motivé, on est hyper content de se retrouver. Ça ne dure pas longtemps, on n'a pas besoin de bazarder tout l'après-midi pour ça. Et on passe un vrai bon moment. Est-ce que ça, les clubs vont devoir s'aligner un petit peu là-dessus ou sur autre chose? Attention, hein, je ne dis pas que c'est moi qui ai l'idée du siècle, mais sur d'autres modes de pratique. Est-ce que les clubs sont en danger ou est-ce que, de toute façon, l'amour de la compétition fera toujours que les clubs perdureront? C'est Fred.
Ouais, je pense que les clubs sont en danger. Alors, pas forcément sur les plus compétiteurs au sein des clubs, mais sur toutes les équipes annexes, les vétérans, les jeunes. Ouais. Parce que les vétérans, c'est quand ça fait 2 saisons que tu ne joues pas, c'est la bonne occasion pour arrêter. Pour le jeune qui passe toujours au moment de l'adolescence sur des périodes d'hésitation, est-ce que je continue, j'ai d'autres activités, etc. Là, c'est la bonne occasion pour ne pas poursuivre. Donc, effectivement, je pense que les clubs vont vraiment souffrir par rapport à ça parce que tous les bénévoles qui restaient dans une ambiance, c'était ça qui les faisait perdurer au sein de la structure, là, c'est la bonne occasion pour arrêter, pour jeter l'éponge. Donc, effectivement, je pense que les clubs vont vraiment souffrir.
Ouais. Alors attention, prenez pas les choses à l'envers, on n'est pas du tout en train de défendre faire en sorte que les clubs meurent pour une autre activité. Non, mais pour moi, une fois de plus, on doit s'adapter et au sein des clubs proposer des pratiques un petit peu différentes. Je vous dis, moi, je n'ai absolument plus besoin de compétition. Par contre, j'ai besoin de retrouver mes potes et que ce soit simple à jouer et qu'on ne me fasse pas payer une licence à 250 euros pour jouer sur un terrain que je pourrais avoir gratuitement à côté. Quoi. Nico. Non, c'était Gilbo ou Nico, je ne sais plus.
Non, Gilbo.
Gilbo. Ouais, simplement, nous, c'était déjà le cas avant, en fait. Mais les clubs, ça reste quand même, pour les jeunes et ainsi de suite, ça va rester la base.
Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y aura cette partie compétition. Mais pourquoi les jeunes, seraient passionnés de compétition? Est-ce qu'à 25 ans, il n'y a pas aussi des sportifs qui aimerait simplement pratiquer tranquillement sans avoir toute cette semi-pression, toute cette ces contraintes, puisque c'est quand même des contraintes qui vont avec la vie de club. Quoi. Fred ?
Je pense qu'il va, ce qui va être intéressant, c'est de voir, il y aura peut-être toujours autant de sportifs, mais c'est dans des sports différents. Je pense que la course à pied va gagner encore beaucoup d'adeptes, éventuellement le cyclisme, parce que c'est des activités qui ont pu continuer à se faire. Et par contre, je pense que tous les sports collectifs vont souffrir énormément de ces séquelles ou ces conséquences de ces quasiment deux saisons consécutives de confinement.
Ah ben, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu vois, parce que ben, Nico est là avec nous. On joue ensemble les dimanches matins. Moi, je vois le ballon, je peux pas m'en passer, quoi. J'ai toujours été footeux et je serai toujours footeux. Donc, je jouerai toujours, d'une manière ou d'une autre, je jouerai toujours au foot. Et maintenant, est-ce qu'un club peut encore me récupérer pour être un licencié d'une certaine manière qui me plaise à moi? Ben justement, je les interroge, et dans le courrier de la Mayenne, j'espère qu'ils ont bien aussi compris mes propos. Je critique pas les clubs, mais j'essaye d'interroger les clubs sur comment récupérer des types comme moi qui sommes à bout de l'idée de la compétition mais qui veulent toujours faire du foot. Voilà, ce sera, vous découvrirez ça, je crois que c'est mardi, la semaine prochaine, pour les lecteurs assidus du courrier de la Mayenne.
L'article annuel.
Ouais. Messieurs, on va se quitter là-dessus. Très belle page PSG qui méritait. On s'attend forcément pour le tour d'après. Federer n'a pas eu droit de passage cette fois-ci. Je suis désolé, mon Lionel également, qui avait travaillé, et je t'ai complètement oublié. Je suis sincèrement désolé.
Tous mes fans, là, Claudine, Marianique, tout ça.
Je m'excuse auprès d'elle aussi. Franchement, je m'en rends compte maintenant. Et on verra ça la prochaine fois. Gilbeau.
Juste un petit point. La prochaine fois, je vous parlerai du plus vieux trophée sportif du monde.
Oh, ben dis donc, ça doit vous donner de l'eau à la bouche, tout ça.
Ah oui.
On se dit, messieurs, à dans 15 jours. On vous souhaite évidemment de rester sportifs sur cette période. On ne sait toujours pas comment ça évolue, mais nous, on est très heureux derrière notre poste de radio. À bientôt, messieurs, dames.
Salut.
Salut.
Bonne journée.
Nico, c'est Nico Chartrain ?
Non, Nico Flané. C'est pour ça la page PSG, c'était pas mal pour lui.
Non, c'est pour savoir si l'émission allait être pourrie, parce qu'avec Gilbo et Nico, ça pouvait...